Frédéric de Coppens, Le sorcier de Padoue. Je compare l'Italie à un cadavre couché par terre, comme l'hermaphrodite Borghese sur le matelas de marbre que lui a taillé le Bernin. Si vous approchez la main de cette beauté mourante, vous sentirez encore un peu de chaleur vitale à la région du cœur, du côté de Rome ou de Naples. Mais les extrémités sont déjà froides, et Venise, Padoue, Ferrare, toutes ces cités décrépites et désertes, sont comme ces pétéchis dont la mort tache les cadavres pour montrer aux médecins que la vie se retire et que leur ministère est terminé. Parmi ces villes qui s'en vont, il n'en est pas une qui offre un spectacle plus triste que la vieille Padoue, dont l'enceinte assez grande pour contenir 100 000 âmes n'en a pas 25 aujourd'hui. Lorsque le voyageur traverse cette ancienne patrie de Tite-Live, qui prétend faire remonter ses souvenirs jusqu'à l'époque de la guerre de Troie, il sent la compassion le saisir en voyant tous ces édifices moussus, toutes ces rues désertes qui s'enfoncent à perte de vue entre des murs de jardins, interrompues de loin à loin par des maisons lézardées dont les fenêtres sont hermétiquement closes. Sur les vastes places, il ne voit personne. Personne sous les portiques lombards qui n'abritent plus que l'échoppe misérable du fripier juif ou l'étalage de quelques revendeurs de librairies. Il se demande combien de temps encore la charrue respectera ses murs inhabités, et l'on peut croire que dans son université, qui seule la soutient encore, il y a longtemps que Padoue n'existerait plus. Cependant, tout engourdie qu'elle soit déjà par la mort, il y a une époque où l'Italie entière s'agite d'un mouvement convulsif. C'est lorsqu'arrive Carnaval. Alors, toutes ces vieilles cités s'émoustillent et jettent de grands éclats de rire. Elles tirent de leur garde-robe fanée tout le fard, toute la joie, toutes les défroques du temps passé. C'est pitié de voir les vieux édifices qui froncent le sourcil le reste de l'année, vomir ce jour-là des fantômes crottés, couverts de clinquants. Les rues, sombres et silencieuses comme au temps du Dante, semblent pleurer de la gaieté sacrilège des étudiants en goguette. Et, s'il faut dire la vérité, en entendant des cris de joie, des bruits d'instruments, des lazzis tumultueux sortir d'entre ces habitations vermoulues qui menacent de tomber les unes sur les autres, on éprouve le même sentiment qu'auprès d'un mort qui se mettrait tout à coup à rire sous l'influence de la pile galvanique et qui entendrait une chanson de Béranger en se trémoussant dans son linceul. Or, il n'y a pas encore bien longtemps que le carnaval avait ainsi rassemblé toute la population de Padoue par un bel après-midi de mars sur le Palazzo della Valle, vaste emplacement situé au midi de la ville, devant la célèbre église de Sainte-Justine. Les paysans, accourus des alentours, circulaient pêle-mêle avec les citadins, plus élégants, sous la promenade plantée de platanes, où les Padouans modernes ont élevé à leurs grands hommes un si grand nombre de statues qu'on ne sait comment une seule ville a pu jouir d'une pareille fécondité. Mais la foule endimanchée, qui fluctuait sans cesse, ne songeait guère en ce moment à s'enorgueillir de Tite-Live, du jurisconsulte Paul, de Sperone Speroni, des Morlani, du Padovani et de tant d'autres célébrités qui ont plus ou moins besoin du commentaire. Elle les eut toutes données pour Arlequin et son compère, le docteur Geronimo. Des mascarades bizarres traversaient continuellement la place, à la grande satisfaction des spectateurs. Mais la plus grande part de l'attention publique était attirée par une voiture de masques, d'où pleuvaient les saillies, les œufs, les bonbons. Cette voiture paraissait composée de l'aristocratie des étudiants. Elle s'arrêta à l'entrée de la promenade, dans l'endroit où la foule était la plus épaisse, et 4 ou 5 orateurs se mirent, chacun d'un côté, à débiter en même temps des folies accueillies par 1000 applaudissements. Voici de la fleur de sésame d'Arabie, disait un Turc en tenant un petit paquet entre l'index et le pouce. C'est une substance qui fait disparaître les taches à l'instant. Prenez, mesdames, c'est fort utile dans les ménages. Et comme plusieurs mains s'avançaient. J'oubliais de vous dire, continuait-il, que les tâches dont il s'agit sont celles que vous faites à votre honneur, en causant tout bas avec vos amoureux. Ah, le monstre! Criaient les femmes en retirant leurs mains. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, reprenait en asillant une face blême dont le costume ressemblait à celui de trois ou quatre ordres religieux, sans être précisément celui d'aucun. Je veux vous faire ma confession générale, mes chers frères. J'ai aspiré l'autre jour, un vendredi, avec trop de complaisance, la fumée d'une poularde qui rôtissait dans la cuisine de l'évêque. Oh, je suis un grand misérable! Povero frate, disait une voix. L'évêque ne t'a-t-il pas interdit? Demandait l'autre. Misericordia, domine, continuait le faux moine en levant les yeux au ciel. J'ai eu un instant la velléité de m'approprier le bien d'autrui. Mais quand cela? Lui cria la foule. Ben, quand le père abbé me chargea de porter au président de la cour ce sac d'écus qui nous fit gagner notre procès. Bravo, frate! Crièrent les assistants en riant de toute leur force. Un gros médecin tout rond qui portait une énorme canne à pomme d'or prit alors la parole. Tout ce que vous écoutez là, dit-il, ne vaut guère mieux que du poivre dans un sorbet. Je vais vous apprendre à faire l'élixir de longue vie qui se fabrique avec trois choses, du sel, un œuf et du lait. Mais il faut du sel aptique, un œuf de phénix et du lait de la voie lactée. Avec cela, vous vivrez aussi vieux que Melchizedek, qui à l'âge de 107 ans lisait sans lunettes. Qui parle de lunettes? Cria une voix qui semblait venir d'en haut. Et en effet, c'était celle d'un licencié en costume d'astrologue qui, sans respect pour la statue du Podesta Bonifidio, s'était assis à califourchon sur ses épaules, d'où lui avait fait une espèce de trompe d'éléphant, lui ajustant une énorme lunette de carton au bout du nez. « Je démontre la fausseté de tes paroles par les principes de l'astronomie, » continuait le masque aérien. « L'astronomie est une science aussi étonnante par ses immenses résultats que par l'exiguïté de la base d'où elle est partie pour mesurer les cieux. » Si nous plaçons une muscade dans le soleil et un gobelet dans la lune, et qu'ensuite nous tirions la parallaxe, nous avons A plus B égale X, c'est-à-dire qu'un chameau ne passera pas par le trou d'une aiguille. Bon, « Ego consequentiam !» cria de toutes ses forces un docteur en droit, monté sur un âne rétif, qu'il caressait de grands coups de nerf de bœuf sans pouvoir le faire avancer. « Veux-tu que je t'explique la loi pour l'opérandum ?» répondit le licencié du haut de son piédestal. « Dis-nous plutôt quel astre tu découvres là-haut ?» dit le docteur qui battait toujours son âne. « La constellation des Gémeaux !» répondit l'astrologue en braquant sur lui son interminable lunette. Un éclat de rire universel suivit ses paroles. Le docteur continuait à lutter avec sa monture rétive, qu'il encourageait de la voix et du geste. « Eia, Eugé !» criait-il. « Avanceras-tu, Benedetta Bestia ? Pan ! Prenez garde, mesdames ! En avant, corpo di bacco ! Et voi ! Bravo !» cria la foule. L'âne venait en effet de prendre une détermination héroïque. Il avait fait volte-face, et emportait son maître au grand galop vers la ville. L'astrologue, du haut de sa statue, battait des mains de toutes ses forces en déclamant le vers de Virgile « Incudem auta traema sam picis urbe reportat ». Mais l'attention générale fut bientôt distraite par une voiture de masque arrivant au grand trot d'un autre côté. Plusieurs jeunes gens, déguisés sous divers costumes, exécutaient une symphonie bouffonne sur le devant du char, tandis que les autres chantaient. Au milieu d'eux était assise une jeune fille d'une beauté remarquable, mais un peu pâle et fluette, dont la taille avait cette grâce particulière aux femmes nerveuses, cette grâce des fleurs délicates dont la tige a été débilitée par une culture imprévoyante ou par un trop prompt accroissement. Il y avait dans sa parure quelque chose de bizarre qui semblait tenir plus à la singularité du goût qu'aux libertés du carnaval. Elle avait ôté son masque pour manger une grenade dont elle jetait sans façon les grains sur la foule après les avoir sucés. Mais la foule, bien loin de se fâcher, élevait autour d'elle une immense acclamation. « Oh, la Zoccolina ! » criait-on. « Voici la Zoccolina ! Vive la Zoccolina !» La Zoccolina était une cantatrice qui venait d'avoir le plus grand succès au théâtre de la Porte de Carinthie à Vienne. Originaire de Padoue, où elle avait débuté autrefois, elle y était revenue depuis peu pour y chanter pendant le carnaval, et elle y avait reparu avec l'autorité d'un nom consacré par les applaudissements de la capitale. Aussi, l'idolâtrie populaire s'attachait-elle partout à ses pas. Elle avait reçu des milliers de couronnes et de sonnets, et le public, après sa première représentation, l'avait fait repasser plus de 10 fois sur la scène pour la saluer d'applaudissements frénétiques. Quand la Zoccolina fut arrivée à l'endroit où nous avons laissé nos premiers acteurs, les deux voitures s'arrêtèrent un moment l'une vers l'autre pour s'adresser à la coutume italienne des interpellations qui allaient et revenaient comme des balles. « Belle Zoccolina, nous chanteras-tu une chanson ?»« Belle Zoccolina, as-tu bien dormi ?»« Rossignol d'amour, nous te couperons les ailes pour que tu restes parmi nous. »« Qui sont tous ces chiens marins qui nous amènent la déesse de Cythère ?»« Viens un peu ici, belle Zoccolina, je veux te faire ma confession, » disait le moine. « Tes beaux yeux m'ont fait une blessure au cœur, » ajoutait le médecin au gros ventre. « Il en sortira des noyaux de courge, » répondit une voix de l'autre côté, en faisant allusion à la ressemblance du docteur avec une citrouille. « Qui veut de la courge grillée pour 1 centime ? Zouka, zouka, zouka !» cria quelqu'un en imitant la mélopée singulière des marchands de comestibles vénitiens. « Ne quitteras-tu pas tes compagnons pour venir un instant vers nous, belle Zoccolina ?» dit l'un des masques de la première voiture. « Non, certainement, » répondit l'enfant gâté de la foule, « car si j'allais vers vous, j'aurais peur de ce moine affamé qui mangerait toutes mes grenades. Le Turc me cacherait le soleil avec son turban. » Et quant au docteur, je voudrais l'attacher au bout de son grand bâton pour en faire une bassinoire. Brava, Zoccolina, brava ! Crièrent 100 voix qu'accompagnèrent de bruyants éclats de rire. Méchante, je ne pleurerai pas quand Othello t'étranglera, dit le docteur. Et moi, qui lui avais fait un sonnet, continua le moine en prenant une prise de tabac. « Voyons ton sonnet, lui demanda-t-on de toutes parts. Dis-le. Ou je la comparais au rossignol qui sait nous enchanter, malgré sa laideur, reprit-il. Comme il canter d'april, che in veste bruna. Assez, assez, interrompirent les compagnons de la cantatrice. C'est toi qui es laid comme un Diogène. « Puisse le diable t'emporter dans la caisse de ta contrebasse, » répondit le moine. « Est-ce la nymphe Circé qui vous a changé en bête ? Est-ce celui-là qui crève dans sa peau comme une figue mûre ? À bonne heure, le quin. On ne jette pas de pommes cuites. Telles étaient les exclamations qui s'échangeaient entre les deux parties, avec un entrain tout méridional. Quand on vit arriver une autre voiture, conduite par deux beaux chevaux noirs, qui se dirigea de manière à passer entre les deux premières. Il n'y avait dans cette voiture qu'un seul domino noir, dont le visage était masqué. Sans prendre part à la querelle joyeuse qui occupait la foule, ce masque silencieux jeta un long regard à la Zoccolina en tournant la tête vers elle à mesure qu'il passait. Comme s'il eût eu quelque chose de mystérieux dans ce regard muet, la jeune actrice poussa un cri et tomba évanouie au milieu de ses compagnons. La voiture noire continua son chemin. Il se fit aussitôt un profond silence, à peine interrompu par le murmure inquiet de la foule. Les masques épouvantés se hâtèrent de donner à la Zoccolina les secours d'usage qui ne tardèrent pas à lui faire reprendre connaissance. Mais elle n'avoua pas la cause de son évanouissement. Elle demanda qu'on la reconduisît chez elle pour prendre le repos qui lui était nécessaire. Et en effet, la voiture qui la portait disparut bientôt dans les rues sombres de Padoue. La disposition subite de la jeune actrice préoccupa vivement la foule, qui lui donna mille motifs divers, faute d'en connaître le véritable. Cependant, cet accident finit par s'oublier, et chacun retournant à ses jeux, la journée s'acheva à peu près comme toutes les journées de carnaval. Maintenant, nous allons prendre la liberté de transporter le lecteur dans un autre lieu ou à quelque distance de celui où se passait la scène que nous avons essayé de décrire. Chapitre 2. Au milieu du quartier le plus désert de Padoue, sur les bords de la Brenta qui cache entre de sales baraques son eau bourbeuse, belle seulement dans les vers des poètes, s'élève une tour lombarde, solide encore malgré sa vétusté. Elle est connue du peuple sous le nom de Specola. Cette tour fut construite au Moyen-Âge par les tireurs de Padoue pour leur servir de prison et l'on raconte plus d'un drame sanglant dont ses pans noircis ont été le théâtre. Quand les vieilles femmes voyaient, il y a quelques années, une lumière solitaire briller la nuit à la dernière fenêtre du donjon, elles faisaient de singuliers récits sur la Specola, ainsi que sur son gardien, le vieux Cornelio, qui partageait, dans leur crédulité superstitieuse, le mauvais renom des murailles entre lesquelles il passait sa vie. Officiellement, ce vieillard mystérieux n'était autre chose que le gardien d'un quart de cercle et de quelques lunettes détraquées qui formaient avec une boussole rouillée ce qu'il plaisait à la congrégation municipale d'appeler l'observatoire de la ville. Celui qui aurait voulu se servir de ses instruments pour étudier le cours des astres aurait bien pu faire comme ce savant qui, découvrant sur la surface du soleil des taches bizarres, doué d'un mouvement très rapide, finit par entendre ses taches crier et fut agréablement surpris de trouver un nid de souris dans le tube de son télescope. Mais si Cornelio avait pour profession ostensible celle de gardien de l'observatoire, il passait dans le peuple pour cultiver plusieurs autres sciences moins légitimes. Les uns l'accusaient d'étudier l'astrologie, les autres le donnaient pour un juif, quelques-uns pour un alchimiste. On allait même jusqu'à prononcer le nom de sorcier. Et si le lecteur veut entrer avec nous dans le réduit qui lui servait d'habitation, il sera forcé de convenir que les apparences justifiaient jusqu'à un certain point les accusations répandues contre lui par la prévention populaire. Au dernier étage d'en haut, immédiatement sous la plateforme de la Specola, était une chambre dont la voûte en ogive paraissait évidemment postérieure à la construction du reste de l'édifice. C'est là que vivait Cornelio. On ne voyait dans cet appartement rien qui ressemblât à une cheminée, mais à l'un des bouts on avait établi un large fourneau, au-dessus duquel s'élevait une trace noire et suieuse qui montait le long du mur jusqu'à la voûte, témoignant de l'usage fréquent auquel ce meuble avait servi. Sur le fourneau étaient rangés pêle-mêle des creusets, des tubes et des cornues, les uns entiers, les autres brisés. Par-dessous, un tas de charbon sur lequel étaient jetés un soufflet et des pincettes. Une corde, attachée à la rosace qui formait clé de voûte, tenait suspendue à mi-hauteur de l'appartement un animal empaillé d'une forme problématique, moitié crocodile, moitié dragon, qui se balançant au vent, les pattes et les ailes étendues, semblait toujours prêt à s'élancer sur celui qui pénétrait dans ce séjour de tristesse. Directement, sous cette bête apocalyptique, on voyait, éparse sur une grande table, la bibliothèque poudreuse de Cornelio. C'était d'anciens manuscrits, couverts de parchemin, ou des livres, presque tous des premiers temps de l'imprimerie. Celui qui aurait tiré au hasard quelques-uns de ces ouvrages du monceau où il gisait aurait lu des titres bizarres, propres à confirmer les bruits qui circulaient sur le compte de leur propriétaire. Il aurait trouvé là le traité de Psellus, De lapidum virtutibus, Bradwarden, De quadratura circuli, Burgrave, De existentia spiritum nervosorum, le livre célèbre de Cornicius, De invocatione et evocatione, quoique défendu par un fermoir de fer, paraissait plus usé que les autres, honneur que lui disputait cependant l'in-folio du savant Panvinio, De sibillis et carminibus sibillinis, imprimé à Vérone en 1567. Il y avait aussi dans ce fouillis des livres de droit et de médecine, depuis les 9 énormes volumes de Bartole qui eurent chacun dans leur temps le nom d'une muse, jusqu'à la petite monographie de Courcelles, Descriptio musculorum plantae pedis, sans oublier l'ouvrage épineux et savant De morbis muliebribus, publié par le professeur Bottoni à Padoue en 1585, sous les auspices de l'université. Toutes les sciences paraissaient rentrer dans le cercle des connaissances de Cornelio. Il avait étudié aussi la philosophie, car un œil exercé aurait distingué bien vite parmi la foule un exemplaire précieux du subtil théologien Somebody, De conditione Adami in Paradiso, et an ideas abstractas abuerit ante peccatum. Que dirons-nous de plus? Un condat de Rango était là aussi avec son titre que nous n'inventons pas, De capillamentis ulgo perrucas liber singularis 1663. Bref, toutes les sciences avaient leur représentant dans ce chaos d'érudition vaine ou sérieuse, dont la confusion figurait assez bien la Babel de l'esprit humain, au-dessus de laquelle planait le dragon de l'écriture. Hélas, trois fois pitié pour vous tous, manœuvre souterrain de l'intelligence, qui enfonçait le pic dans le rocher ingrat au-delà duquel vous croyez trouver la vérité. Ne voyez-vous pas le démon du mal qui vous inspire ce rire de vos travaux infructueux? Il sait bien, lui, que vous ne retirerez qu'un vain orgueil de vos efforts. Depuis le géant qui a creusé une caverne jusqu'au pygmée qui a gratté le plus mince filon, votre peine est également perdue, car vous n'entamerez pas le mur de diamant qui vous sépare de l'éternelle clarté. Dérision sur vos œuvres les plus ambitieuses, comme sur vos essais les plus futiles. Vous êtes comme ces mineurs qui vivent dans les entrailles de la terre et qui ne jouissent de la clarté du soleil que quand on les retire morts de leurs antres souterrains. C'est pourquoi je prononce sur vous les vers de Schiller. La vie n'est qu'une erreur et la vérité est dans la mort. Telle était sans doute la manière de penser de Cornelio, car la plupart de ses livres paraissaient n'avoir pas été ouverts depuis longtemps. Il est même juste de dire qu'il lui avait été transmis héréditairement par un de ses aïeux qui avait jadis professé avec éclat dans l'université de Padoue. En effet, Cornelio n'était pas un homme né d'hier. Il descendait en droite ligne du grand docteur Cornelius à Saxoferrato, qui vint à Padoue au Moyen-Âge pendant la fameuse querelle des 24 lettres, querelle bruyante qui durait peut-être encore si le nouveau professeur n'eût terrassé par sa logique les hardis novateurs qui voulaient créer pour l'etc. une 25e lettre place dans l'alphabet. Ce même Cornelius devint plus tard très célèbre par ses connaissances dans la magie noire. C'est lui qui, ayant fait un pacte avec le démon, parvint à lui échapper en lui proposant la question suivante, tirée d'une loi romaine que Satan ne put jamais résoudre. Un maître envoie son esclave au pont en lui accordant la liberté s'il rencontre un esclave. Un autre maître envoie aussi son esclave au pont sous la même condition. Lequel des deux esclaves sera libre s'ils se rencontrent? Le seront-ils tous les deux ou ne seront-ils ni l'un ni l'autre? Satan n'en put pas sortir et vit sa proie lui échapper. Mais hélas, la gloire ancienne de sa famille n'était que le plus immatériel des souvenirs pour l'humble gardien de l'observatoire, avec lequel il est temps que nous fassions enfin connaissance. Le soir du jour où la Zoccolina avait été l'objet de tant d'applaudissements de la part de la population de Padoue, le vieux Cornelio travaillait seul au-dessus de sa tour solitaire. C'était un vieillard maigre et courbé, une face pâle où l'on aurait cru que le sang ne circulait pas. Au fond d'un orbite, échauffé par les vieilles, souffrait son œil gris qui dirigeait un regard habituellement inerte par-dessus ses lunettes placées à l'extrémité inférieure de son nez. Ses tempes creusées étaient enveloppées d'un bonnet de fourrure, de dessous lequel s'échappaient quelques rares cheveux blancs. Si vous avez vu l'alchimiste de Ténier, c'était lui, mais plus maigre et plus caduc. Il avait pour habillement un vieux gilet de bougran noir, 20 fois rapiécé, avec une culotte courte, percée au genou, et encore dans un autre endroit, que feront deviner ses habitudes sédentaires. Le tout recouvert d'une ancienne robe de chambre à larges fleurs jaunes, qui ne quittait que pour sortir, c'est-à-dire bien rarement. Les longues mains fluettes de ce personnage étaient occupées à je ne sais quelle opération suspecte sur de petits morceaux de métal. Un réchaud de charbon allumé, posé à quelques pas sur le fourneau, semblait préparé pour quelques manipulations chimiques. Mais, quant à présent, le vieillard était occupé tout entier à un travail de lime et de poinçon devant une petite table éclairée par une lampe dont le chapiteau rabattait la lumière. Il y avait déjà longtemps qu'il travaillait en silence quand il entendit un pas léger monter l'escalier de la tour et s'arrêter à sa porte où 3 coups furent frappés distinctement. En un clin d'œil, il jeta ses outils dans un tiroir qu'il repoussa en faisant tomber par devant un vieux tapis qu'il avait retroussé pour travailler à nu sur la table. Puis il se leva en soupirant avec bruit, comme un homme que le moindre mouvement exténue, et il s'achemina vers la porte. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Un étranger qui vient vers vous en ami, » répondit une voix d'homme en dehors. Le vieillard ouvrit une petite lucarne grillée, au moyen de laquelle il pouvait reconnaître ce qui se passait dans l'escalier. Examinant, à l'aide de sa lampe qu'il approcha de l'ouverture, la personne qui lui rendait visite à cette heure tardive, il ne trouva probablement rien en elle qui dût lui inspirer de l'inquiétude, car il se décida, en s'excusant des précautions que son isolement le forçait de prendre, attirait les deux verrous dont sa porte était armée. La personne qui entra était couverte d'un domino noir qui cachait son costume et ses traits. Sans paraître surpris de cette circonstance à laquelle il était peut-être habitué, Cornelio referma sa porte et offrit à son visiteur un vieux siège boiteux à quelque distance de son propre fauteuil. « Quel motif vous amène auprès de moi ?» lui dit-il. « Je suis malade, » répondit l'inconnu. « Je viens chercher du soulagement à mes maux. »« Hélas !» reprit le vieillard. « Quoique je ne prétende pas au nom de savant, il est vrai que j'ai quelques recettes assez bienfaisantes pour le mal caduc, la dent de Saint-Guy, le feu Saint-Antoine. » « Non, il y a deux sortes de maux, » interrompit l'étranger, « ceux du corps et ceux de l'âme. Les premiers ne sont pas les plus terribles. » « Je m'attendais à cette réponse, » continua le vieillard. « Votre voix trahit un grand trouble intérieur. » Mais l'œil est le vrai miroir de l'âme, dont la voix n'est que l'écho souvent trompeur. Si quelque puissant motif ne vous force à y rester inconnu, c'est en voyant vos traits que je connaîtrai le mal et que j'en trouverai le remède. » L'étranger eut un instant d'hésitation, mais il rejeta en arrière le capuchon de soie qui retombait sur son visage et laissa voir un front élevé, pâle et luisant comme du marbre, qui se cachait sous d'épais cheveux noirs. Ses deux sourcils, légèrement contractés, couvraient un œil où brillait un regard tranquille et sombre, comme celui d'un homme qui dévore une insulte en attendant l'instant de se venger. C'était une figure noble et belle encore, malgré la profonde tristesse dont elle portait l'expression. Cornelio s'approcha et dirigea la clarté de sa lampe sur la tête de l'inconnu, qui parut vivement éclairée au milieu de l'obscurité de l'appartement. Comme un sculpteur qui se relèverait au milieu de la nuit pour étudier son œuvre terminée, il considéra attentivement les divers linéaments de la physionomie qui frappaient ses regards. « Je lis bien des choses, » dit-il, dans cette pâleur et dans ces rides précoces. Il y a un désenchantement amer dans le coin de cette bouche comprimée, tandis que le dessus du visage me révèle une passion énergique trompée, à laquelle a succédé la haine. « Mais tu dis vrai, vieillard, » reprit l'inconnu, dont l'œil noir lançait une flamme étrange. « La femme que j'ai aimée plus que tout au monde, à qui j'ai tout sacrifié, fortune, honneur, préjugés nobiliaires, m'a lâchement trahi en jetant le deuil sur le reste de mon existence. La passion la plus profonde et la plus brûlante a été payée par ce qu'ont de plus insultant, l'ingratitude et la légèreté féminine. « Bon, c'est une histoire rebattue, » dit Cornelio avec un soupir. « Et cela, quand ce cœur brûlant, poursuivit l'étranger en se frappant la poitrine, croyait s'être ouvert à l'être le plus sincère, comme il était le plus beau, à l'âme la plus pure et la plus incapable d'artifice, à la jeune fille naïve pour qui la reconnaissance devait être un lien sacré. « Rara vis interis, » reprit Cornelio en essuyant ses lunettes. Mais l'illusion que j'avais nourrie s'est brisée. Mon âme a été quelque temps comme la voile d'où le vent s'est retiré et qui pend le long des mâts, flasque et détendu. Mais bientôt un feu nouveau s'est ranimé en moi, flamme inconnue qui s'agite dans le vide de mon cœur, qui brûle mes veines, mais qui du moins m'a rendu l'énergie du désespoir. « Hélas, monsieur, » dit Cornelio, « la médecine a bien peu de secours pour les maladies comme la vôtre. Vouloir guérir ces sortes de maux à l'aide de nos pharmacopées, c'est faire comme celui qui, pour empêcher un ruisseau de couler, le couperait avec une hache. C'est à la source même qu'il faudrait remonter. C'est l'âme qui, chez vous, tue le corps. Cependant, vous tireriez sans doute quelques soulagements, des distractions, des lectures graves, des bains, d'un exercice modéré. » L'inconnu hocha la tête en souriant amèrement. « Ne crois pas, dit-il, que je vienne te demander une médecine de julep, c'est d'eau sacrée. Ma santé corporelle est bonne, ou du moins je ne m'en inquiète pas. Quant à ma santé morale, ce n'est ni toi ni un autre que j'en ferai le médecin. Mais, ajouta-t-il en faisant trois pas vers lui et en lui saisissant fortement le bras, voilà si ce que je te demande. Il faut que tu soumettes à l'empire de ma volonté l'être perfide qui m'a trompé. Il faut que tu m'en rendes le maître afin que je lui cause tourment pour tourment et que je goûte enfin le plaisir de la vengeance. Hé ! S'écria le vieillard d'un air d'étonnement. Mais comment votre seigneurie veut-elle que j'agisse sur l'esprit d'une femme que je ne connais pas, qui est peut-être à 100 lieues de moi ? La médecine a-t-elle ce pouvoir ? Non, pas la médecine, dit l'étranger, mais la magie. La magie, reprit Cornelio en baissant la voix. Voulez-vous donc me faire lapider, grand Dieu ? Ne suis-je jamais occupé de pareilles choses ? Ne joue pas la surprise, vieillard. Tout ce que je vois autour de moi trahit quelles sont tes occupations favorites. Et ce brasier qui brûle sur ton fourneau témoigne qu'à l'instant où j'ai frappé à ta porte, tu te livrais à quelques pratiques de ton art. Si vieux que je sois, balbutia Cornelio, en jetant un regard de biais sur son fourneau, ne faut-il pas que je prépare le peu d'aliments qui soutiennent ce corps débile ? N'aie pas recours au mensonge, dit l'étranger, en lui tendant une bourse à travers les mailles de laquelle l'or jetait son éclat séducteur. Cornelio résista à cette épreuve. « Je suis un pauvre diable, dit-il, qui n'ai jamais vu tant d'or. Mais que demande-moi votre seigneurie ? Personne ne croit plus à la sorcellerie aujourd'hui, excepté les vieilles femmes et les enfants en bas âge. » Personne n'a plus foi dans les sciences occultes, dont une philosophie plus saine a prouvé l'absurdité. Je sais ce que je dois croire, repartit l'inconnu. Je ne prends pas mes opinions toutes faites dans la besace des régents de collège. Vous devez savoir, poursuivit le gardien de la tour, que les forces de la nature étant mieux connues, que le flambeau de la science ayant dissipé les préjugés anciens. Trêve de paroles vides. Je sais que j'ai devant moi le dernier chef de cette mystérieuse école de Padoue qui conserve le dépôt des sciences occultes depuis les temps les plus reculés. « Eh quoi ? » s'écria Cornelio. « Pouvez-vous croire à de vains bruits qu'accrédite contre moi la superstition ou la malveillance ?» L'étranger le regarda fixement, en croisant les bras sur sa poitrine, et prononça les paroles suivantes. « Forma l'hôte, l'étoile bleuâtre, salut Algol, l'astre du zénith étincelant. » « Oh ! » dit le vieillard, « je vois qu'il est inutile de feindre. Mais que ne disiez-vous plus tôt qu'un de nos frères vous envoyait vers moi ?» Chapitre 3. Je ne sais pas s'il impose, mais il parle sur la chose comme s'il avait raison. Molière. Que le vieux Cornelio possédât véritablement quelque chose du pouvoir qu'on lui supposait, qu'il ne fût qu'un imposteur adroit qui tirait habilement parti de quelque coïncidence fortuite pour duper la crédulité d'autrui, ou qu'enfin, comme il arrive à certains enthousiastes, il eût fini par croire lui-même à ses propres inventions, ce sont là des questions que nous ne nous chargerons pas de résoudre. Celui qui raconte cette histoire comme elle lui a été dite, sait bien qu'elle ne peut pas s'expliquer entièrement par les règles de la logique ordinaire. Au fond, il a son jugement arrêté sur tous les faits qu'il rapporte, mais il préfère les exposer simplement au lecteur en le laissant mettre d'en tirer les conclusions qu'il voudra. « Qui que vous soyez, reprit Cornelio, après avoir réfléchi quelques instants. Puisque vous venez à moi de la part de celui qui vous envoie, j'essaierai ce que la science pourra en votre faveur. Mettons donc vite la main à l'ouvrage, dit l'étranger avec un regard sombre. Patience, répondit le vieillard. Il faut d'abord que je connaisse votre nom et votre histoire. Oh, mon histoire, je l'ai dite, et ce que j'y ajouterai ne vaudrait pas le supplice que j'éprouverai à le raconter, dit le pâle jeune homme, en passant sa main sur son large front qui avait le luisant de la porcelaine. Quant à mon nom, qu'importe. Les petits animaux qui n'ont pas de nom jouissent-ils moins du soleil éternel ? Tiennent-ils moins leur place dans la création, parce que nos savants ne les ont pas encore inscrits sur leurs grimoires académiques? Les noms servent à partager les successions ou à mettre les lettres à la poste. Mais pour les choses qui ne sont pas de ce monde, nous valons par ce que nous sommes. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Les puissances surnaturelles peuvent agir à ma voix sans savoir pour qui elles se mettent en mouvement. Mais il faut du moins que je leur indique le nom de la personne dont vous voulez que je vous livre la destinée. Non, vous ne le saurez pas davantage, et moi-même, je ne suis pas sûr de le connaître. Mais alors, que me demandez-vous ? S'écria Cornelio. Que penseriez-vous du général qui commanderait à ses soldats de lancer la bombe sur les magasins de l'ennemi sans leur dire en même temps où ces magasins sont situés? Il faut avant tout connaître le but pour le toucher d'une main sûre. L'étranger tira de son sein par un geste brusque un médaillon monté en or qu'il tendit au vieillard. Tu trouveras ici de ses cheveux, lui dit-il. Je sais que cela te suffit. Allez, agissons promptement et résous-toi à n'en pas savoir davantage. Cornelio garda le silence quelques instants, pendant lesquels son interlocuteur mystérieux se promena de long en large dans la chambre. Oui, reprit enfin le gardien de la tour, ces cheveux peuvent me suffire, quoique l'incantation en devienne plus difficile. « Répétez-moi seulement ce que vous demandez que je fasse pour vous servir. »« Je veux, dit l'étranger en s'arrêtant, que vous me rendiez le despote de sa volonté comme je suis le maître de cette main que j'ouvre et que je ferme à mon caprice. »« Ah, c'est un philtre que vous voulez, dit Cornelio. »« Ne vous méprenez pas sur mes paroles, répondit le jeune homme avec un amer sourire. Je ne recherche pas son amour. Je le rejetterai bien loin de moi quand elle me le rapporterait, ce lambeau de pourpre qu'elle a cousu au manteau d'autrui. Mais je veux dominer son âme pour la froisser comme je froisse ce vêtement, pour y jeter le désespoir qu'elle a mis dans mon cœur, pour y briser le germe de toutes ses espérances. Je veux aussi lui arracher ses prestiges qui m'ont séduit et qui lui attirent les hommages de la foule. Affreuse jalousie qui me dévore, tu seras satisfaite. Qu'à la beauté succède la laideur, qu'elle devienne comme la fleur séparée de sa tige, comme la harpe brisée qu'on oublie dans la poussière. Mais, reprit Cornelio, vous ne me demandez pas ce qu'il y a de plus simple dans mon art. « S'il ne vous avait fallu qu'un philtre pour aspirer de l'amour, une bague contre le mal de tête ou une pierre constellée contre l'hémorragie, la moindre formule aurait suffi. Mais vous voulez agir par la volonté sur la volonté, c'est plus grave. Il faudrait pour vous satisfaire un morceau de cire où vous donneriez des coups de pouce qui répondissent dans l'âme d'autrui. C'est cela ?» répondit l'étranger. Oui, mais c'est impossible. La cire est une substance trop molle et trop inerte pour symboliser l'âme féminine, dont la fleur la plus délicate, dont le papillon le plus aérien, dont le nuage même, si nous pouvions le saisir, serait encore une lourde personnification. J'ai entendu dire qu'un diamant d'une Olympide pouvait servir à ces opérations. Vieilles idées, poursuivit Cornelio en branlant la tête. Ces substances électrocristallines ne s'imprègnent pas facilement des esprits animaux qui pivotent alentour sans s'y fixer. De quels esprits animaux parlez-vous? Demanda l'inconnu. Avez-vous lu Platon? Qui ne connaît le sage de la Grèce, répondit l'homme au domino noir. Sage en effet, poursuivit le magicien, et plus sage que ceux qui héritent ses doctrines. Selon ce divin philosophe, les idées ne sont que des images corporelles d'une ténuité extrême, qui se détachent incessamment des corps par d'innombrables essaims. Parmi ces spectres légers qui s'envolent, les uns viennent comme une plume impondérable, se déposer dans la mémoire des hommes, et les autres remontent à travers l'espace, jusqu'à l'immuable destin qui sait tout et qui les recueille. Saisir ces fantômes dans leur vol avant qu'ils soient rentrés dans le sein de Dieu, s'en rendre maître pour subjuguer par la lettre dont ils émanent, telle est la base antique de notre science. Il me semble entrevoir une vérité confuse qu'un brouillard me cachait, dit l'étranger en considérant fixement Cornelio. Je vous parle sans mystère, continua celui-ci, comme un homme capable de sucer le lait de la vérité. Subjuguer l'idée, c'est le premier degré de la science, mais ces principes éthérés et fugitifs... Bien puissant serait celui qui leur construirait une prison, qui leur donnerait une fixité durable, qui les soumettrait à l'empire de nos organes grossiers. Ici commence le travail des sympathies. Comme la feuille d'or légère qui ne se soutient pas par elle-même, mais qui, unie à l'argent, s'y incorpore étroitement, nous aussi, il faut qu'après avoir saisi le spectre subtil dans l'espace, nous l'incorporions à quelque autre substance qui ne fera plus qu'un avec lui. Alors nous serons maîtres de cette idée périssable et insaisissable, nous la soumettrons à nos sens, nous lui imposerons le contact de nos instruments matériels, nous la tiendrons sous clé, cette émanation invisible. « Me comprenez-vous ? » demanda l'idéologue. « Mais ma vue plonge dans des abîmes nouveaux, » répondit le jeune homme, qui l'écoutait avec avidité. « L'étude des affinités, » reprit Cornelio, « est celle qui demande le plus de jugement parce qu'elle ne repose pas sur des principes certains. Toute idée ne sympathise pas avec le premier corps venu, et sans la sympathie, l'union ne saurait s'opérer. » Je vais vous lire à ce sujet ce que dit notre savant Ben Jonathan de Salamanque dans son livre « Des affinités ». Le vieillard tira du monceau qui couvrait sa table un vieux manuscrit relié en parchemin qu'il feuilleta. Il y lut ces paroles. Cela étant, de même que l'eau et l'huile sont d'une mixtion malaisée, comme aussi la couleur verte et le rouge choquent l'œil si on les juxtapose, de même le nécromant doit avoir grande attention à la substance dont il fera un symbole, qu'elle ne soit pas en répulsion avec l'être représenté. Il y a sympathie, verbi gratia, entre une vieille femme et une chauve-souris, entre une feuille de jonc et un courtisan, entre un avocat et un papegaie, entre un indiscret et un tamis. Ainsi Tatus, le cheval de Caligula, ayant été fait consul par l'empereur, son maître, j'estime qu'on peut aussi représenter par un cheval un général d'armée. Il faut de plus considérer avec délicatesse les diverses propriétés des caractères pour y assortir dans chaque individu le symbole qu'on choisira. L'ambitieux s'assimilera mieux à l'aigle, le médisant à la vipère, l'envieux à un étéloir, l'humble au gain de s'élever, le crapuleux au pourceau, le superbe à un cimier de casque. Pour les souverains, il faut prendre une pièce de monnaie à leur effigie. Mais je désapprouve qu'on personnifie par un coq, animal domestique, les serviteurs infidèles, sur quoi nous sommes souvent consultés, vu que c'est le coq qui chanta autrefois pour accuser la trahison de Saint-Pierre. Et plus loin, l'auteur ajoute, on ne peut nier que si l'on prend une bouture sur un vieil arbre, le jeune et le vieux ne périssent en même temps encore qu'un grand espace où même la mer les sépare. D'où vient aussi, d'après que Bacchus nous a comblé des présents de la vendange, le généreux sang de la grappe que nous avons renfermée dans nos caves se met à bouillir et à fermenter chaque printemps, à l'époque où la vigne se couvre de pousses nouvelles. Car les corps qui n'ont fait qu'un gardent entre eux des correspondances secrètes après leur séparation, ce que montre bien l'exemple suivant, que je sais par propre expérience. Un jour, une femme de Hojas ayant craché sur une pierre, sa voisine, qui lui était peu bienveillante, y allant voir le lendemain, y trouva un ver né de sa salive, et l'ayant écrasé, procura la mort de son ennemi. Tu comprendras par là, cher élève, comment la magie peut agir sur les corps à distance, quand elle est parvenue à les symboliser, en maîtrisant leur idée qui n'est autre qu'une essence fine et déliée de leur substance. Ce peu de lignes vous révélera sans doute, poursuivit Cornelio en posant le manuscrit, comment j'ai pu faire crouler des rochers sur la tête de mes ennemis ou faire sonner les cloches de Saint-Marc sans sortir de ma cellule. Vous comprendrez aussi comment, en s'emparant des idées de deux êtres étrangers l'un à l'autre, pour les unir au même symbole, on établira un lien mystérieux entre leurs destinées, on confondra leur volonté. On leur inspirera un penchant mutuel dont le vulgaire ne soupçonnera pas la cause. Et c'est ainsi, s'écria l'inconnu, que nous nous débattons, pauvres mortels, sous la main invisible qui nous torture, que nous cherchons un sens à la triste énigme de nos douleurs, pendant que le mot fatal est dans le taudis des devins et des exorcistes. N'est-ce pas pour cela que vous êtes venu ici ? Demanda Cornelio. C'est vrai, j'ai tort de m'en plaindre. Mais vous ne m'avez pas encore dit par quels moyens vous parveniez à saisir les émanations légères des corps et les soumettre à l'action de votre volonté. C'est le secret de la science. Mais je puis vous dire que cela s'opère par le ministère des génies. « Ah, il faut donc croire aussi au génie, » dit l'étranger. « Et pourquoi n'y croirions-nous pas ?» répondit le vieillard. « Tout s'exécute dans la nature par leur coopération intelligente. Et c'est ici que nous devons nous incliner devant les progrès de la science humaine, » poursuivit-il avec une expression d'ironie méprisante. « Quand nous voyons la sève circuler dans les rameaux, l'œuf éclore sous l'aile de sa mère, le brouillard monté dans les vallées, quand nous suivons d'un œil effrayé les astres éternels qui tourbillonnent dans l'espace, si nous expliquons ces phénomènes divers par l'action des génies, vos savants à capacité haussent avec dédain leurs épaules philosophiques. Mais demandez-leur ce qu'ils ont mis à la place. Ils vous répondront que tout marche et s'accomplit par les forces de la nature. « Oh, grands hommes, si votre barbe pousse, c'est par une force vitale, et vous vous reposez dans votre quiétude ineffable. » Pour nous, qui n'avons pas inventé cette explication sublime, nous croyons encore au génie. Ce sont eux qui portent le tonnerre sur leurs ailes de feu, ce sont eux qui entourent le calice radié des fleurs, ce sont eux qui peignent sur les nuages l'arc-en-ciel aux couleurs irisées. Ces ministres infatigables obéissent eux aussi aux sympathies et aux répulsions. de même que l'alouette vient planer sur le miroir de l'oiseleur, le génie turbulent des orages abat son vol sur la pointe métallique que nous savons lui présenter. C'est en étudiant ces affinités secrètes que nous a révélé l'expérience et en ajoutant, peu à peu, au patrimoine de nos devanciers, que nous sommes parvenus à dompter presque toutes les prétendues forces de la nature ou, pour parler un langage plus vrai, que nous avons su faire des génies innombrables qui se croisent dans l'air à toute heure, les serviteurs aveugles de nos volontés. Arrête, vieillard, répondit l'étranger en passant sa main sur ses yeux. Je ne sais quel génie tu conjures à présent, mais je sens mes idées tourbillonner dans mon cerveau comme les feuilles mortes que chasse le vent d'automne. Il me semble que ma raison s'égare dans un palais resplendissant à 1000 portes, tout plein de lustres éclatants et de célestes harmonies. En ce moment, un gémissement singulier, parti d'un coin de la chambre, fit se retourner l'étranger qui aperçut l'horloge de Cornelio dressée comme un cercueil contre le mur. C'était la sonnerie qui se mettait en mouvement pour sonner 11 heures. « Voici l'heure des incantations qui approche, » dit Cornelio. « Mais ce n'est pas ici le lieu de les accomplir. Nous nous retrouverons dans 1 heure devant le portail de l'Annunciata in Arena. »« Oh, je connais mal les rues de Padoue, » répondit l'étranger, « et j'ignore le nom de ces édifices. » Nous ne pouvons cependant nous y rendre ensemble, reprit Cornelio. Cela ne serait pas prudent, et d'ailleurs j'ai besoin d'être seul pour quelques préparatifs nécessaires. Mais, ajouta-t-il, suivez-moi. Il conduisit alors son compagnon sur la plateforme de la tour, d'où un spectacle inattendu s'offrit à leur regard. La lune se levait à l'orient du côté de Venise, où l'on voyait briller à l'horizon comme une étrange frange d'argent l'eau lointaine de la mer. La vaste plaine de la Lombardie dormait à leurs pieds, toute couverte de ses bosquets de mûriers et de vignes, au milieu desquels se détachaient de loin à loin les blancs clochers ou les blanches villas italiennes. La brise de la nuit qui caressait leur front ne leur apportait aucun bruit, sauf les accords de quelques instruments, dernier signal des danses du carnaval. À peine un petit nombre de lumières brillaient-elles encore çà et là dans la ville, qui s'étendait sombre et silencieuse au pied de la Specola. L'étranger semblait respirer avec contentement l'air de la nuit, qui ramenait le calme dans son âme. Mais Cornelio, que le froid saisissait sous sa grande robe de chambre à fleurs jaunes, le tira de sa rêverie. « Vous voyez, lui dit-il, blanchir sous les rayons de la lune les coupoles de Saint-Antoine que créa jadis Nicolas de Pise avec un souvenir de l'art byzantin. C'est là d'abord que vous dirigerez vos pas. Vous prendrez ensuite la rue del Santo, où vous distinguez encore quelques lumières. Arrivé au bout, vous verrez le tombeau d'Anténor, que vous laisserez à gauche pour suivre la rue Alighieri, qui vous conduira à la place des gentilshommes. De là, vous marcherez le long de cette ligne blanchâtre qui s'enfonce dans la campagne. Ce sont les remparts de la ville. Cette masse noire, isolée, que vous voyez bien loin, là par-delà les dernières maisons, c'est l'Annunciata in Arena, où je vous attendrai à minuit sonnant. J'irai moi-même par le Ponte di Legno et par l'autre côté de la ville. J'y serai à l'heure dite, répondit l'étranger, et ramenant sur ses yeux le capuchon de son domino, il descendit l'escalier tournant de la tour.